et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! Je reçois aujourd'hui sur le podcast Catherine Girard, une Québécoise qui est expatriée en Suisse depuis 2009. J'avais reçu dans le passé Catherine dans le groupe Facebook Québécoise Expat dans le cadre d'une entrevue relativement à son entreprise. Puis rapidement, je me suis rendu compte que le contenu de cette entrevue servirait également à des gens qui ne sont pas nécessairement expatriés afin de vous inspirer sur une nouvelle façon de faire. Catherine a donc accepté de participer cette fois-ci au podcast Texas Mama Blog Expat afin de partager les informations à plus grande échelle. Catherine est infirmière depuis 1995. Après plusieurs années de pratique au Québec, elle s'est laissée tenter par l'aventure de l'expatriation en Suisse accompagnée de son enfant de 3 ans et de son conjoint. Cette femme est vraiment très créative et elle a éventuellement senti le poids du milieu de travail très hiérarchisé. Une transition s'est alors amorcée et l'idée lui est venue de développer une entreprise libérée, inspirée d'un modèle d'affaires qu'elle a observé chez Burtzog en Hollande. C'est ainsi qu'avec 2 autres cofondateurs, ils ont démarré le projet des infirmières volantes qui regroupe à ce jour 95 collaborateurs. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Catherine Girard, qui est expatriée en Suisse. Bonjour Catherine, comment ça va?
Bonjour, moi ça va très bien. Et toi?
Ça va super bien, merci d'être là. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse qu'on puisse finalement refaire un enregistrement ensemble. On en avait fait un dans le groupe Québécoise Expat et je trouvais que c'était du contenu qui était vraiment intéressant et qu'on pourrait, si tu le voulais bien sûr, le rendre accessible à tout le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée sur le podcast aujourd'hui.
Moi, ça me fait plaisir.
Super, je suis très contente. Bien, on va commencer par peut-être parler un peu de ton expatriation. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier en Suisse et ça fait combien de temps?
Donc, moi, je suis expatriée depuis 2009.
OK.
Je suis infirmière. C'est vrai que la Suisse courtise beaucoup les infirmières depuis plusieurs années, depuis plus de 30 ans. Souvent, moi, je voyais les annonces d'offres d'emploi du Centre hospitalier universitaire vaudois dans la revue de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Donc, on reçoit, quand on est au Québec, infirmière, on est inscrite au tableau de l'Ordre et tout ça, et on reçoit une revue. Et à chaque revue, on voit passer ces annonces-là, donc ça m'a toujours un petit peu titillée. Ça me donnait envie. Et puis, à un moment donné, après quelques années de travail au Québec, j'ai eu envie de partir. Et j'ai rapidement proposé, en fait, à mon conjoint. On avait déjà un garçon, William, qui avait à ce moment-là 2 ans. Et donc, j'ai proposé à mon conjoint ce projet de partir, de vendre la maison et d'aller vivre en Suisse avec pas vraiment d'objectif en temps. On s'est dit au moins un minimum de 2 ans. Et puis, c'était le moment de le faire parce que le garçon n'avait pas encore commencé l'école, pas trop d'attache avec les copains. Alors, c'était le moment ou jamais pour moi. En tout
cas, est-ce que tu étais déjà allée en Suisse avant? Est-ce que tu connaissais un peu le pays?
Jamais. Je n'étais jamais allée en Europe.
Puis là, vous avez... Pactez vos petits, comme on dit en bon québécois, et vous êtes parti comme ça là, avec ce que vous aviez ou en laissant tout derrière?
Ah bien, il y a toute une démarche que moi j'ai faite déjà depuis le Québec pour trouver un emploi. Mm-hmm. Et donc, le CHUV venait régulièrement au Québec pour faire des entretiens d'embauche. Et puis, moi, j'ai envoyé mon CV, tout ça. J'ai toutes fait les démarches depuis le Québec. Et c'est vrai que c'est plus facile si tu as déjà un travail pour obtenir un permis de résidence.
Oui.
puis au début temporaire, puis avoir le visa pour partir. Et donc, moi, ça s'est tout fait depuis le Québec. Donc, dès que j'ai eu un contrat de travail de signer, tout s'est enclenché. On a mis la maison en vente. Et puis, ben, ça a pris le temps d'une grossesse, à peu près 9 mois pour tout préparer. Et je suis partie toute seule au départ, au début.
Okay.
Donc, je suis partie un mois seule. Et puis, Christian venait me rejoindre avec William. Mon okay. garçon, le temps que moi, je commence déjà mon nouvel emploi, que je trouve un appartement, que ouais, j'organise un peu les flûtes
ouais.
pour pouvoir accueillir mon conjoint et puis mon garçon un mois après.
Est-ce que lui avait un plan déterminé quand il est parti avec William? Au niveau professionnel?
Ah, ben au niveau professionnel, lui, il s'est organisé pour démissionner. Il a synchronisé un peu tout ça en fonction du départ parce qu'il y a aussi eu la vente de la maison.
Mm-hmm.
Alors, il a fallu tout vraiment synchroniser pour que personne ne se retrouve à la rue.
Oui.
Alors, au départ, c'est vrai qu'on a vendu la maison et on a gardé un certain volume de biens, de meubles, les lits. Cuisine, tout ça, les souvenirs. On a tout mis ça dans un entrepôt parce qu'on ne savait pas trop, en fait, est-ce qu'on va aimer ça ou pas? Quand on va revenir, il faut
ouais.
tout recommencer. Donc, on a quand même pris un entrepôt pour mon meuble
mm-hmm.
qu'on a gardé pendant trop longtemps, je pense. Parce que, c'est toujours quand même toute une démarche hein, de casser maison comme ça puis de se dire, mais j'emporte rien sauf on est parti chacun avec 2 valises.
OK.
Alors,
c'est une vie dans 2 valises.
C'est ça. Donc, et puis le gamin, bon, au moment où ils sont venus me rejoindre, William avait 3 ans. Alors, c'est vrai qu'à cet âge-là, il y a les jouets, il y a les vêtements, tout ça. Donc, c'est tout c'est quand même une épreuve hein, à passer. Il faut avoir l'énergie, il faut être motivé, puis il faut être bien entouré. Donc,
Je me suis toujours rappelée de ces moments-là comme d'un accouchement. Tu sais, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Il y a plein de journées dans notre vie qu'on oublie, mais ces journées-là, on dirait qu'elles sont comme encastrés, sont comme enregistrés dans la mémoire. Là. Ouais, tu sais, on dirait qu'on peut se rappeler de certaines minutes même qui ont été déterminantes ou qui ont été marquantes dans ces moments-là de départ. Ouais. Aussi la raison pour laquelle on s'était parlé lors du premier enregistrement dans le groupe, c'était parce qu'on faisait des appels en lien avec l'entrepreneuriat des expats. Et puis, c'est comme ça qu'on a ouvert le sujet, toi et moi. Et là, tu m'as parlé d'une façon, c'était super intéressant, de ce que tu fais en tant qu'infirmière là-bas en Suisse. Mais peut-être que tu peux nous parler un peu de ce que tu faisais en arrivant et comment ça s'est transformé vers ce que tu fais maintenant.
OK. Ben, moi, j'étais infirmière depuis... ça fait plusieurs années, 95. Donc, j'ai travaillé au Québec pendant plusieurs années. Je me suis spécialisée en oncologie. Et puis après, en arrivant en Suisse, je suis rentrée par la grande porte au CHUV. Et puis, j'étais infirmière en médecine générale. J'ai fait ça pendant une année. Et puis après, j'ai pu obtenir un poste d'infirmière consultante en soins palliatifs. Et puis là, je me suis spécialisée en soins palliatifs. J'ai travaillé plusieurs années, là, je pense en 2016, que je suis partie du CHUV. Moi, je suis une infirmière qui a beaucoup d'idées, qui est très créative. Je suis artiste aussi et j'aime développer. J'ai tout le temps beaucoup, beaucoup d'idées. C'est vrai que dans un centre hospitalier, j'ai toujours travaillé en milieu hospitalier. C'est des milieux très, très hiérarchisés. Donc, tu n'as pas beaucoup de liberté pour ta créativité, tout ça. Et puis moi, j'avais envie vraiment d'avoir plus de responsabilités au niveau professionnel. Je voulais continuer à évoluer. Alors, j'ai obtenu un poste de responsable d'équipe dans un autre environnement de travail complètement différent, dans les soins à domicile. Et j'ai travaillé dans ce qu'on appelle les CLSC au Québec. Donc, c'est l'équivalent ici, c'est le parapublic. Et ça a été une transition pour moi difficile. J'ai regretté mon poste au CHUV. Je pensais me retrouver dans un milieu plus familial,
Ouais.
plus petit, tout ça, et puis travailler vraiment avec mes valeurs humaines et de soignante que je suis. Et finalement, je me suis retrouvée dans un milieu au contraire très beaucoup plus gros que le centre hospitalier, avec beaucoup de règles. Je devais gérer beaucoup de problèmes. Ouais, j'ai vraiment perdu le sens de mon travail, de ma profession, ça, à quoi j'ai beaucoup investi dans ma formation, dans le maintien de mes compétences tout au long de ma carrière. Et donc, ça a été un mouvement, une transition très compliquée pour moi, et ça m'a amené en arrêt de travail, en burn-out et puis en dépression.
OK.
Mais c'est un milieu qui m'a permis de rencontrer des... Parce qu'il y a toujours du positif, hein, dans tout ce qu'on
Oui.
vit.
Oui,
Et puis,
on
heureusement, moi, j'ai
réussit
rencontré...
où on
Oui.
apprend. On réussit où on apprend.
Exactement,
Oui.
exactement. Donc, heureusement, c'est un milieu de travail qui m'a amené à rencontrer deux personnes merveilleuses que j'apprécie beaucoup et avec qui on a pu se trouver. En fait, on a eu beaucoup de valeurs communes et on était trois personnes très complémentaires. Donc, il y avait ma chef là-bas et un autre adjoint. Donc, on était au même niveau. C'est lui qui m'a accueilli, qui m'a formé aussi et ils m'ont vu aussi dépérir. Mais on a vraiment développé des liens plus forts. Et on a eu aussi envie de développer quelque chose d'étroit. Alors, suite à cette transition-là, et avec, donc on est trois associés, on a monté une entreprise de soins à domicile. Mais beaucoup plus en fonction de nos valeurs humaines. Alors, à trois, si tu veux, on a vraiment pu développer une entreprise de soins à domicile qui correspond et qui nous redonne du sens au travail. Avec vraiment cette intention de développer un milieu en tant que professionnel qui redonnait aussi du sens aux infirmières qu'on a rencontrées tout le long de notre carrière. Et on voit aussi, même au Québec, hein, tous ces problèmes au niveau de la profession, et on voit les infirmières qui quittent le navire alors qu'on en a tellement besoin. Et la société en a tellement besoin parce que l'évolution démographique aujourd'hui, c'est plus une musique d'avenir, hein. On est en plein dans un changement important et un vieillissement important de la population. Alors les besoins sont énormes.
Absolument. Puis là, la transition s'est amorcée en 2016, mais le projet dont tu parles là commence en 2000.
Commence deuxième partie 2018.
2018. OK, parfait. Donc là.
Là, on prend conscience qu'on n'est pas bien dans notre milieu de travail et on a envie de créer quelque chose. Et là, ça commence en 2018, fin 2018.
Les discussions avec ces deux personnes-là, puis la mise en
Oui.
place du projet. Au
Oui.
niveau, disons, légal ou organisationnel, est-ce que c'est complexe d'avoir fait ce virage-là? Est-ce que c'est complexe d'avoir mis en place votre structure ou ça s'est fait assez simplement?
Ah non, c'est compliqué.
OK.
C'est compliqué parce qu'il faut obtenir pour pouvoir exercer au niveau de la santé et soigner la population, ça prend des permis d'exploiter. Donc, pour obtenir les permis d'exploiter, il faut répondre à certains critères et il y a des exigences qui sont de la santé publique. Où il faut développer plusieurs aspects au niveau professionnel pour pouvoir être accepté et puis qu'on puisse avoir un permis d'exploiter. Donc, c'est toute une démarche et tout le business plan aussi, l'investissement que ça peut demander. Et puis après,
Est-ce qu'une des deux personnes avec qui tu commençais à bâtir tout ça, ou qui ont eu là, une importance dans le projet, est-ce qu'une de ces deux personnes-là avait déjà exploité une entreprise ou avait déjà des skills, des caractéristiques d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui...
Des caractéristiques, je dirais que oui.
OK.
Mais déjà, bâtir une entreprise, non, on était les trois, on se lançait, là, on plongeait, on est trois infirmiers, infirmières de profession.
Oui.
Mais il y a Paquise qui est la directrice des soins volants, qui a un bagage professionnel, managérial, qui est beaucoup plus étoffé. Elle a énormément d'expérience dans le management d'équipe. Donc, elle est infirmière à la base, mais elle a énormément développé tout ce côté de gestion.
Les habiletés-là. OK.
Ouais.
Et puis, donc, là, ça voit le jour, le projet commence. Puis là, finalement, ben, vous avez pas mal plus de succès peut-être que ce que vous visiez au départ.
Oui.
Ça
ben,
s'est
on
vite.
On sait jamais. Hein?
Non, c'est ça. Non, 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 je ne sais pas. Mais là, ça va vite, là.
Oui, ça a été super vite. On a obtenu notre permis d'exploiter. On a ouvert notre première équipe en janvier 2019. Et puis, ce qui est particulier dans ce qu'on a proposé comme entreprise, c'est que c'est une entreprise libérée qu'on appelle. Donc, c'est une entreprise où il n'y a pas de hiérarchie. Alors que dans le milieu des soins, c'est toujours, il y a beaucoup de hiérarchie, tout ça. Il y a des chefs qui prennent des décisions et tout ça. Et nous, on est allé visiter, en fait, en Hollande, Burgzorg, ça veut dire soins de quartier. Donc, c'est une entreprise qui est très connue au niveau mondial pour son style de management, qui est l'entreprise libérée. Et eux, ils organisent des journées internationales et il y a toutes sortes de milieux qui s'intéressent à leur façon de manager les équipes. Il y a le milieu automobile, le milieu du textile, il y a évidemment tout ce qui est les soins à domicile, même les hôpitaux. Il y avait des gens des États-Unis, du Japon, de la Chine, de l'Allemagne, de la France, il y avait les Suisses, il y avait des Canadiens, il y avait vraiment des gens de partout qui viennent à cette journée-là où tout est assez transparent.
Mm-hmm.
Et là, on parle de l'auto-organisation. Comment pour eux ça fonctionnait. Donc aujourd'hui, ils sont plus de 14 000 personnes à travailler en autogestion en Hollande.
Okay.
Ils font les soins à domicile, il y a des petites équipes un peu partout. Et aujourd'hui, ils sont capables de dire cette entreprise-là a fait économiser 40% au niveau du pays des coûts du maintien à domicile.
OK, quand même.
C'est énorme.
C'est énorme.
Ouais.
J'essaie de figurer, là. On prend ce système-là, puis on essaie, disons, si ça pouvait se faire, là, on essaie de développer ça au Québec, par exemple. Avec le système qu'il y a en ce moment, comment ça, on peut imaginer ce système-là? Tu sais, en fait, c'est que, bon, on comprend, là, il y a des infirmières volantes qui vont commencer à créer ce réseau-là, ces groupes-là, comment tu appelles ça? Des équipes, exactement. Donc là, les infirmières volantes vont former des équipes. Puis en fait, comment ça se concrétise? C'est que les gens, au lieu d'aller, quand ils sont malades, à la clinique ou au CLSC ou à l'urgence de l'hôpital, ils vont faire appel à un système privé, ce serait ça?
Bien, là, ici, c'est difficile de tout comparer parce que tu as tout le système financier qui est différent aussi en Suisse et au Québec.
Ouais.
Mais ça, c'est comme le CLSC. Quand tu es à domicile, tu viens de te faire opérer, tu rentres chez toi, tu as des pansements, tu as de la réadaptation. Peut-être qu'au début, tu as aussi besoin que quelqu'un t'aide à prendre ta douche et tout ça, à t'habiller. Ou tu es une personne âgée en perte d'autonomie qui a besoin d'aide pour tous les actes, les activités de la vie quotidienne, manger, se laver, s'habiller, faire le ménage et tout ça. Tu vois, il y a des personnes qui sont atteintes plus gravement dans leur santé, qui ont une maladie oncologique, qui ont de la chimiothérapie, qui ont besoin d'aide pour enlever la chimio qui est en cours, gérer les effets secondaires, faire des suivis de santé. Donc, toutes sortes de raisons qui peuvent faire en sorte que tu aies besoin d'une infirmière à domicile.
Ouais.
Et là, c'est, tu vois, ça, on peut éviter des hospitalisations si, par exemple, le patient est suivi par son médecin de famille, puis c'est le médecin de famille qui va demander une infirmière qui va nous mandater, parce qu'on travaille sous délégation médicale, de faire des suivis pour son patient. Ou c'est l'hôpital qui va demander à la sortie d'un patient, est-ce qu'il y a une équipe d'infirmières qui peut aller chez cette personne-là? Évidemment, nous ici, nous, les soins volants, c'est une organisation privée, mais qui est financée pareil comme le parapublic.
OK.
Parce qu'il y a l'assurance maladie. Tout le monde a une assurance maladie. C'est obligatoire quand tu viens t'établir en Suisse.
OK.
Chacun paye son assurance maladie. Moi, je paye la mienne, mon mari a la sienne, mon garçon il a son assurance maladie. Et puis, ton assurance maladie va couvrir certains soins. Puis, en fonction de la franchise, de combien tu payes, ben, ils vont payer tes soins à domicile, que ce soit le parapublic ou le privé qui viennent chez toi.
Donc, c'est ça, là. Donc, en fait, même les assurances sont dans. Vous êtes liés aux assurances aussi, comme dans le système public
Oui.
régulier, finalement.
Système québécois, ben, c'est une assurance publique. Tout le monde, ben, on paye par les impôts, on paye très cher votre assurance maladie au Québec. Hein. On dit que tout est gratuit, mais
Mais
il y a un
non,
bon pourcentage de ton salaire qui part pour
c'est ça.
payer ça, en fait.
Absolument.
Et je dirais de mettre en place l'autogestion dans un système de santé comme au Québec. Compliqué parce que c'est une grosse machine déjà. Nous, on a commencé avec une équipe et on a tout de suite mis en autogestion. Puis l'autogestion, ben, ça demande aussi une structure parce qu'il faut, on donne toutes les responsabilités, revient à l'équipe.
OK,
Si,
puis à chaque individu de l'équipe.
oui, c'est vraiment les gens se responsabilisent par rapport au fait que ben, moi, je suis au travail. Je suis conscient que mon salaire, il va être généré par des soins que je vais apporter, que je vais facturer et que l'assurance va me reverser. Il y a vraiment une prise de conscience de d'où il vient mon salaire. Et puis, la responsabilité que j'ai aussi que dans mon équipe, on puisse bien s'organiser pour faire nos plannings, puis amener des soins, les soins que la population dans mon quartier où je travaille ou dans la ville où je travaille, bien, que je puisse assumer les besoins de la population. Et puis, bien, ces équipes-là d'infirmières, elles vont s'autogérer, ça veut dire qu'elles savent bien, quels patients elles ont à soigner et elles vont faire les plannings en fonction des besoins des patients. Puis on essaie de pas synchroniser, c'est pas le bon mot, comme on dit, concilier tout ce qu'on a au niveau familial et personnel. Ça veut dire que si dans mon planning, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de soins le matin, j'en ai un peu moins l'après-midi, mais il y en a le soir, ben, c'est à moi aussi de voir comment je peux organiser ma vie à travers ça. Ça devienne un peu naturel de dire ben là je fais des soins et puis là je peux aller faire je peux aller courir un peu ou je peux aller m'entraîner, je peux aller faire mon épicerie et
Donc,
puis je m'habille.
chacun devient autonome dans son système. On
C'est
n'a plus
ça.
besoin de toute la grosse hiérarchie. Puis dis-moi, puis je suis sûre que ça a aidé, mais est-ce que ça a aidé au niveau de justement ce qui s'est passé, la pandémie, la COVID, tout ça? Et si oui, de quelle manière est-ce que ça a allégé tout ce qui s'est passé pour peut-être prêter main forte d'une façon différente avec la pandémie?
La pandémie a eu, comment je pourrais dire ça? Ça a quand même pas été facile comme entrepreneur parce que c'est tout d'un coup un facteur de stress qui s'ajoute sur, ben, là, on a des responsabilités, on a des patients, on a des collaborateurs. la
oui, c'est ça, parce que normalement, tu sais, par exemple, si on regarde le Québec, ça a été une pression, ben, c'est une pression sur le système de santé. Mais ouais. Le système de santé, à quelque part, c'est vous. Donc, c'est chaque oui. individu responsable.
Oui.
Donc, là, vous devient un peu.
Il y a eu plusieurs vagues hein, dans cette pandémie. Ouais. Il y a eu la première qui était extrêmement stressante pour toutes ces raisons-là, l'inconnu, tu ne sais pas comment ça va tourner. On n'a pas de matériel de protection, tu as l'aide de l'armée. Tu sais, ça, c'est gros, là, parce que on ne sait pas. Tu dis, merde, comment on va s'en sortir? Ouais. Il y a les patients qui ont développé aussi des peurs de nous voir, les soignants à domicile.
La transmission.
Donc, il y a eu une baisse de prestations de notre côté où tu dis, oh là là, les heures de soins, là, ce qui nous ramène aussi nos salaires à tout le monde.
Ouais.
Ben là, ça baisse parce que les gens ont développé une phobie d'avoir des soignants à domicile. Malheureusement, ça a été un peu au début. Et ça n'a pas, comme entreprise, ça a été quand même difficile à gérer au départ à cause de ça. Mm-hmm. Au début de la pandémie. Et puis, après, il y a eu tout d'un coup une augmentation des demandes. Dès qu'il y a eu une première vague qui a diminué, tu as toutes les chirurgies électives, tout s'est remis en marche. Les gens ont tout d'un coup, qui n'étaient pas allés voir leur médecin depuis 6 mois, sont allés voir leur médecin et ont plein de problèmes. beaucoup de problèmes parce que les personnes âgées aussi isolées, en confinement, ont perdu beaucoup de l'autonomie. Donc, il y a eu après une grosse augmentation. Donc, ça n'a pas été simple à gérer avec la pandémie. Mais le fait qu'on soit dans sans hiérarchie, dans l'autogestion, mm-hmm. chaque équipe, disons que les responsabilités, ça s'est porté à plusieurs et non pas à un chef. Par équipe ou tu vois, c'est là où si tu avais ta collègue, parce que
c'est devenu un travail d'équipe, c'est devenu un travail de groupe de se supporter à travers cette épreuve-là aussi, qui en fait, ça passe sous sa casse, ça solidifie ou ça passe pas, là, vous passez au travers, puis je pense que vous avez appris, puis vous apprenez énormément de ça qui a ébranlé un petit peu tous les systèmes, ou beaucoup tous les systèmes. Hein.
Ça a bousculé pas mal toutes les équipes.
Ouais.
Parce que on essaie de se voir un peu moins au bureau, mais le fait de plus se voir, comme on est dans l'autogestion, la communication, elle est essentielle, super ouais. importante. Donc, il y a eu, puis on a appris de ça, on s'est dit, il faut vraiment maintenir une super communication, continuer. Puis après, avec toutes les mises en quarantaine, les infirmières, là, la dernière vague, on est beaucoup touchés, forcément. L'Omicron, c'est quelque chose qui se répand super vite. T'as beau prendre des précautions, à un moment donné, t'as beau être vacciné, tu le chopes. Et puis, mais les gens se sont remplacés. Et puis là, on a pu avoir de l'entraide entre les équipes. Donc, c'est des équipes autogérées, mais si tu travailles dans telle ville, puis tu sais que ta collègue dans la ville à côté a besoin d'aide, je vais aller t'aider. Alors, il y a beaucoup d'entraide comme ça, inter-équipe, puis à l'intérieur même des équipes, une responsabilisation en disant, j'ai 2-3 collègues de malades, là. Donc, moi, je vais travailler un petit peu plus, mais si ça m'arrive à moi, je sais que mes collègues vont me remplacer aussi.
Bon, puis là, on voit un bébé qui grandit, ton bébé, entre autres. Et là, j'imagine que ça augure vers le laisser grandir, l'accompagner. Et donc, on ne rentre pas au Québec, on continue dans cette lignée-là. Comment tu vois là, les prochaines semaines, mois, années par rapport à ce beau projet entrepreneurial-là?
Bon, c'est un bébé qu'on a accouché à 3.
Oui, c'est ça.
C'est vrai que ça a été assez vite parce qu'on a commencé en janvier 2019 avec une équipe, 1, 2, 3 infirmières. Aujourd'hui, on a 9 équipes autogérées. On est 95 collaborateurs, donc ça a grossi assez vite. Mais
95 en français?
Oui, 95. Oui, donc on est rendu 95 collaborateurs, ça fait beaucoup de monde. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y a des besoins et c'est une entreprise qui attire beaucoup.
Ouais.
Donc,
C'est en croissance.
c'est en pleine croissance et puis on a des infirmières de plusieurs secteurs, dans d'autres cantons même, qui viennent à nos séances d'information. Donc, on propose encore des séances d'information. Ça se fait le soir, c'est à peu près aux 6 à 8 semaines où on parle de notre conception, de comment ça fonctionne. Et puis, les gens, ben, s'ils sont intéressés, ils postulent et puis on fait le recrutement. Le recrutement, il est fait aussi. Nous, on fait un premier tri, si vous voulez, mais le recrutement est fait par les équipes. Donc, c'est dans une équipe même qui va décider, en fonction de son taux d'activité, dire, ouais, nous, on aurait besoin d'une infirmière ou d'une assistante infirmière ou d'une auxiliaire de santé. Et alors, les équipes sont vraiment au cœur du recrutement. C'est elles qui vont choisir avec qui elles ont envie de travailler. Donc, elles font vraiment partie du processus. Et puis, on voit vraiment l'intérêt parce qu'on a toujours beaucoup de monde aux séances d'information. On reçoit beaucoup de propositions, de candidatures spontanées. Donc, on a même eu une équipe de 5 infirmières, en fait, se sont présentées à nous et qui ont sollicité l'ouverture d'une équipe dans leur quartier.
Ah, super. Donc,
Alors, ça, c'était la première fois qu'on vivait ça. Donc, ça a été hyper intéressant parce que,
ouais.
on a pu faire un plan de recrutement entre qui va commencer, à combien de pourcentage, qui la rejoint, qui la rejoint, qui. Et puis là, elles sont en train de fleurir, et elles ont une superbe équipe, qui évolue très, très rapidement aussi. Elles ont
Génial.
déjà
Puis,
beaucoup.
au niveau du
Oui, ça.
travail, là, comment ça fonctionne, le référencement des clients? Tu sais, c'est-à-dire que les patients, c'est les docteurs, tantôt tu as fait référence au docteur, mais c'est le docteur qui va référer à votre système plutôt qu'au système
Ça
public.
peut venir du médecin de famille, ça peut venir des infirmières qui font le lien entre l'hôpital et le domicile. Ici, on les appelle les infirmières de liaison.
OK.
Ça peut venir du patient lui-même qui est insatisfait des soins qu'il reçoit par un prestataire et qui veut changer. Ça peut venir du voisin.
Ouais,
Voisin
c'est
qui
beau
dit, ouais,
changer.
moi j'ai vu votre petite voiture parce que nous, on a des petites voitures, des petites Fiat 500. Petite voiture
J'adore
rouge
ça.
avec les soins volants, ça attire l'œil.
Ouais.
Et puis, on se promène pas mal. Donc, voilà, ils prennent note. Il y a eu des articles dans le journal. Donc, c'est les familles, les patients, les voisins, les médecins traitants, l'hôpital, les chirurgiens, les différents professionnels comme les physios qui sont installés en cabinet privé, les ergothérapeutes, le bouche à oreille. Ça vient d'un peu partout.
Puis dans vos équipes, est-ce qu'il y a des infirmières qui arrivent de l'école et qui commencent comme ça, ou c'est toujours là, est-ce que vous demandez un certain nombre d'années d'expérience dans le
Non,
système?
non. Nous, on est aussi reconnus comme une institution formatrice. Ça veut dire qu'on accueille des stagiaires infirmières, des apprentis aussi d'assistantes infirmières. On engage aussi des finissantes. Il y en a qui ont vraiment envie de travailler dans la communauté déjà quand ils finissent l'école. Puis quand ils ont vraiment cette conviction-là de vouloir travailler à domicile et tout, évidemment, la porte est ouverte.
C'est vraiment génial parce que de plus en plus, vous êtes de plus en plus de personnes, le groupe est de plus en plus gros, donc de plus en plus les gens peuvent en entendre parler, alors qu'au début, c'était à une équipe, c'était moins
Ouais.
reconnu, mais là, ça prend sa place, ça prend son envol. Mais écoute, je trouve ça vraiment, puis c'est pour ça que tu es encore avec moi en enregistrement, mais cette fois-ci sur le podcast, je trouve ça vraiment intéressant, fascinant. Je pense que ça amène les gens à réfléchir sur nos systèmes de santé, peu importe où est-ce qu'on est. Je pense
Ouais.
que la pandémie a ébranlé pas mal les systèmes, puis ça fait en sorte qu'il faut peut-être se questionner sur des nouvelles façons de faire, voir ce qu'on est capable de supporter en tant que système, en tant que population, puis aussi en tant que travailleur de la santé. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter par rapport. Oui,
Oui, il y a plein de choses à dire, tu sais. J'ai plein
vas-y.
de choses à dire sur l'entreprise libérée. C'est vrai que ça intéresse énormément dans différents secteurs. Comme je te disais, à Burzac, on a vu des gens de l'industrie automobile, du textile, de plusieurs pays. Maintenant, il y a beaucoup d'études qui se font aussi. Il y a beaucoup de. Dans la littérature, si vous faites une recherche sur l'entreprise libérée, vous allez trouver beaucoup de choses. Il y a un auteur, Isaac Gates, qui dit dans un de ses livres que n'importe quel système, n'importe quelle industrie, on va mettre des règles au niveau du travail pour 10 à 15 % des personnes qui ont besoin d'avoir des règles, d'être cadrées, d'être encadrées. Alors qu'à 85 %, on peut tout à fait prendre nos responsabilités. Y a, même les Google aujourd'hui, c'est vraiment ça aussi, c'est un autre exemple.
Oui.
Les gens ne calculent même plus leurs heures.
Mm-hmm.
Tu peux prendre des vacances quand tu veux, comme tu veux, mais tu as des objectifs au niveau de la productivité à atteindre. Puis, à coup, tu les as atteints, mais tu prends tes congés, puis tu t'en vas à la maison. Puis les gens sont autonomes par rapport à ça.
Oui.
Et il donne un exemple aussi, à un moment donné, je ne sais plus si c'est Isaac Gates qui parle de ça, mais dans une industrie, pour emprunter un outil, ben, il faut que tu fasses une demande ou pour avoir des gains. Je ne me souviens plus exactement de l'exemple, mais c'est pour illustrer que tu es obligé de passer par tout un protocole pour pouvoir avoir des gains de travail, alors que tu pourrais mettre une boîte de gains à disposition, puis la majorité, ils vont les prendre puis ils vont les remettre à leur place, les gains.
Oui, c'est ça.
Mais tu es obligé de faire tout un protocole pour 10 % ou 15 % de ceux qui vont peut-être les voler, les prendre pour les ramener à la maison, qui ne vont pas les ramener au bon moment, en tout cas. Bref, on ralentit tout un système pour un petit pourcentage qui a besoin d'être encadré. Donc, nous, c'est un peu ça, soit c'est de mettre vraiment cette liberté, de donner des responsabilités. Puis c'est aussi ça que les gens y recherchent dans leur travail, c'est avoir des responsabilités, pouvoir être créatif, avoir des idées et puis pas passer par 50 protocoles pour pouvoir. Je veux dire, les gens du terrain, ils savent de quoi ils ont besoin, ils savent c'est quoi, dans quoi on peut innover pour améliorer le système. Pas besoin d'avoir un chef. Évidemment, il y en a des conflits des fois aussi dans les équipes. Tu aimerais bien ça avoir un chef qui te dit quoi faire. Mais
ouais,
c'est bien mieux que d'amener une équipe à réfléchir et puis à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Ce serait quoi la meilleure solution? Puis la meilleure solution, là, c'est pas moi qui vais la trouver, c'est eux autres. C'est ça qui est intéressant dans l'entreprise libérée. Alors, c'est pas tout simple, c'est pas tout le temps, je dirais, facile de mettre en place l'autogestion quand on a été éduqué dans des systèmes hiérarchisés où on prend plus des décisions, c'est toujours les chefs qui nous disent quoi faire. C'est de revenir un peu en arrière et puis de se restimuler sur la recherche de solutions, sur améliorer la communication, aussi se structurer, prendre des responsabilités, mais après, c'est à travers ça qu'on retrouve la liberté au travail et du sens.
Absolument. Puis j'ajouterais un décideur, puis après ça, les autres suivent, mais aussi les autres chialent. Mais il n'y a rien qui évolue. Alors que là, ben, ça donne de la place à tout le monde pour faire avancer le système de cette façon-là.
Oui, oui. Puis dans une équipe, quand il arrive un conflit ou il y a un problème, une problématique, on doit, tout le monde doit se, puis peu importe ta profession, que tu sois infirmière, auxiliaire de santé, infirmière assistante ou auxiliaire de ménage, tout le monde a son mot à dire. Là, il n'y en a pas une qui est en haut de l'autre. C'est,
ouais.
Et puis, OK, maintenant, on prend une décision et, on vote ou pas, ou qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Après, c'est plus difficile de chialer si tu n'es pas content.
Absolument.
On t'a sollicité, tu as eu ton mot à dire, tu as eu. Tu vois, alors, et puis quand on se dit, mais là, le consensus, c'est qu'on décide telle décision aussi, parce qu'il y a deux façons, on peut être dans le consensus ou le consentement. Consentement, tu peux peut-être que c'est pas tout le monde qui sont d'accord, mais qui acceptent quand même la solution que le groupe
Ouais.
a choisi. Et puis, on se donne un délai, par exemple. On se dit, ben, on se donne 3 mois, on essaye de telle façon, puis après, on verra, on en discutera, et puis on réargumentera tout ça. Mais c'est vrai que d'être dans ce système-là d'autogestion, on a vraiment l'impression que chacun peut amener de sa créativité, de ses compétences pour arriver à un objectif commun.
Oui.
Et moi, j'apprends énormément, énormément. Je trouve ça très, très intéressant comme système. Et puis, j'ai vraiment, en tout cas avec mes deux associés, là, on est les trois au départ cofondateurs. Je préfère dire cofondateurs qu'associés. Convaincus par ce modèle-là. Et puis, on essaie de le faire connaître le plus possible.
À votre tour, oui. Ben oui,
Ouais.
je pense que c'est vraiment intéressant probablement de s'y intéresser, de comprendre, de voir les possibilités. C'est sûr que les systèmes sont implantés, il faut décrasser certaines affaires, puis parfois ça dure depuis de nombreuses années. Donc, c'est pas nécessairement facile de créer le changement, mais déjà de s'y intéresser puis de voir qu'il existe d'autres possibilités, c'est un premier pas. Ensuite, vous en avez fait pas mal plus, là. Vous avez accouché du bébé, comme on dit, mais
Ouais.
ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je m'y attendais pas quand on a fait le premier enregistrement. Je savais pas que c'était ça. Puis je pense que vraiment, ça ouvre à des nouvelles possibilités, de nouvelles façons de faire pour fonctionner peut-être avec un système meilleur.
Ouais.
Donc, j'aime
Puis,
vraiment
si
ça.
jamais certains sont intéressés à lire sur la question, il y a Isaac Gates qui écrit L'entreprise libérée.
Ouais. Ah,
Comment
merci.
devenir un leader libérateur. Et puis, il y a Frédéric Laloux aussi. Il y a deux versions d'un ouvrage donc, qui s'appelle Reinventing Organization. Désolée pour mon accent anglais qui est horrible.
Aucun
Vers
problème.
les communautés de travail inspirées. Donc, il y a deux versions. Il y a une version plus détaillée, il y a une version illustrée. Pour ceux qui n'aiment pas lire, la version illustrée, elle est idéale. Et lui, il parle beaucoup de l'organisation Burzug. Donc, c'est intéressant aussi d'aller lire là-dessus. Si jamais vous avez une organisation, vous avez envie de vous libérer.
Oui, bon. Mais oui, j'invite fortement. Si tu veux, tu m'enverras les noms précis, puis je vais les réécrire là, dans la description du podcast. Comme ça, les gens vont pouvoir garder ça en note quelque part. Sinon, ben,
Parfait.
on arrive à la fin de l'enregistrement. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. Moi, je finis toujours les entrevues avec 5 questions. Alors, je te les pose, qui n'ont pas de rapport nécessairement avec le fond de l'entrevue.
OK.
Mais on y va pour la forme. Alors, premièrement, c'est quoi ta meilleure série Netflix à vie?
Oh my God. Oh, mais j'en ai tellement écouté des séries Netflix. Mindhunter, j'ai beaucoup aimé.
OK, parfait.
C'est vrai que c'est dans
Maintenant.
les dernières, mais c'est vrai que sinon j'en ai écouté. Mon Dieu, j'aime beaucoup les séries Netflix.
Parfait. Ben,
Mais
je
là,
te prends comme ça, j'arrive comme un cheveu sur la soupe avec mes questions. Je ne t'avais pas préparé.
non.
Est-ce que tu écoutes des podcasts? Et si oui, quel est le dernier que tu as écouté?
Ben non, j'écoute pas de podcast.
OK, parfait.
Donc, je suis désolée. Mais
Ben
là, je vais aller écouter les tiens, tu sais.
les miens, puis ensuite, on écoutera les tiens éventuellement.
Ouais.
Est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
Oh boy, là, je lis les directives du canton au jour le jour avec toute cette pandémie de COVID. Donc, je n'ai pas vraiment
C'est ta
de
lecture de
temps
table de
pour.
chevet.
Ouais, la lecture, quand je suis en vacances, j'aime bien prendre des romans. Et puis, le dernier que j'ai lu, c'est de Marc Lévy. Attends, je l'ai à côté de moi, le titre. C'est pas Marc Lévy. Ça, c'est le dernier que j'ai lu en vacances.
Super. Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre un an dans la destination de ton choix, t'sais, si ton entreprise libérée pouvait te suivre, là, ce serait laquelle?
Moi, j'ai beaucoup envie de soleil et de chaleur. Alors, j'aimerais bien aller à Cuba. Et
Parfait.
une amie à Cuba, oui.
Et finalement, est-ce que tu penses qu'on est expat ou qu'on devient expat?
Je pense qu'on le devient.
Parfait. Ben écoute, encore une fois, Catherine, un gros merci d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir fait part de cette entreprise-là qui est une belle découverte. J'ai hâte de partager tout ça sur le podcast. Puis ouais, un gros, gros merci d'avoir été là. C'était vraiment intéressant.
Ça me fait plaisir. Et puis, ben, à dispo si vous avez des questions.
Ah, parfait. Merci.
Merci à toi.
Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer expat2@mama. Merci!